Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans ce 181e podcast de la rédaction de Gameblog. Un podcast qui fait écho à l'arrêt de cet étron télévisuel qui est le carré VIP. Et bien aujourd'hui, les célébrités sont dans le podcast de Gameblog, mais pas n'importe lesquelles, hein, des vraies, des belles, des intéressantes, des
internationales. Sûrement, il n'y a pas l'autre Wattie, là, comment il s'appelle?
Vendetta?
Non. FX, on ne parlera pas de lui.
On ne parlera pas de carré VIP non plus. Allez, c'est la saga des célébrités dans le jeu vidéo, mais attention, pas n'importe lesquelles, visiblement tout le monde est en pleine forme, pas n'importe lesquelles, pas celles dont des jeux ont été adaptés, soit de leurs films directement, soit de licences très connues, mais plutôt des gens, de véritables célébrités, qui sont venus dans le jeu vidéo, que ce soit physiquement, comme on va le voir tout à l'heure avec certains personnages, ou bien avec leur voix, puisqu'on fera à la fois les jeux avec les personnages, mais aussi les doublages, et vous allez voir, il y en a un sacré nombre, on les a répertoriés, pour ceux qui ont la vidéo, ça fait quand même une feuille entière, une deuxième feuille entière et une trois quarts de feuille. Donc vous avez vu des références,
et
il y en a énormément.
C'est loin d'être exhaustif. Hein.
Exactement. Alors pour parler des célébrités dans le jeu vidéo, eh bien nous avons les plus grandes célébrités incroyables de Gameblog.fr. ils sont tous là, c'est extraordinaire. Trazom.
Qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis là, bonjour.
L'homme qui avait pris le nom d'une autre célébrité et de la musique.
Exactement.
Et tu sais que c'est amusant parce que des gens ont tilté, ne serait-ce que la semaine dernière, que Trazom à l'envers, ça voulait dire
Mozart.
Exactement.
C'est dingue, hein. Imagine si j'avais dit Beethoven.
Et ça aurait été un peu plus compliqué.
C'est bizarre.
Oula.
Trazom, quand même.
C'est ce que ça veut dire. Mais j'ai une petite anecdote, c'est juste que Mozart himself signait Trazom, tout simplement. Je ne l'ai pas inventé, c'est lui qui parlait en verlan, mais en vrai verlan. C'est-à-dire avec les lettres inversées et non pas seulement les syllabes.
Et spontanément.
Et spontanément, comme il jouait à l'envers, etc. Bref.
Cet homme était génial.
Exactement.
Et puis Trazom qui a une comédie musicale à son nom, bien sûr.
Ah, pitié.
Trazom.
Et la comédie musicale. Julot, qui lui est célèbre aussi pour du beurre.
Du beurre.
Hubert 31.
Mais non.
Ah,
ah mais attends, du jambon aussi.
51. Oui,
c'est il y a un jambon aussi.
Il y a aussi du jambon,
le Julot.
Le Julot, oui, voilà. Tout à fait. Il y a un dessinateur qui signe Julot aussi. Voilà, un
caricature. Quelle classe. Donc Julot, une autre célébrité.
Voilà.
Raon, qui lui était quelqu'un de grandiose en dessin animé et puis aussi en bande dessinée. C'était l'homme des hommes, des âges farouches.
C'est ça, oui, qui porte un string léopard, un coutelas en ivoire pour trouver son chemin. Et puis je crois qu'il avait des crocs aussi, de je ne sais trop quoi. Dedans de ça, dans le trigger dans ça.
Quant à Tiger, le meilleur ami des Pokémon, mais aussi qu'on retrouve dans Winnie l'ourson, puisque Tiger c'est Tigrou finalement, l'homme trop bien bondissant.
C'est vrai, ouais, tout à fait, j'ai rien à rajouter là-dessus.
Okay, et tu nous
attends, dans ta théorie de drogue dans machin, Tigrou c'était lequel? C'était celui qui était toujours sous
amphétamine, non?
Non, la cocaïne, c'était Coco Lapin, parce qu'il y a la paranoïa qui va avec.
D'accord.
Ça serait plus le LSD chez Tigrou.
D'accord.
Mon Dieu, ce podcast est complètement dingue. Et puis, moi-même, dont les initiales sont employées par certaines
par
célébrités.
Par un certain gourou célèbre.
Star parmi les stars.
Voilà. Et Poufy, bien sûr, dont à la base, le pseudo était Poufsix, en hommage à une certaine personne de la télévision française.
Mais il vit encore dans nos cœurs, Poufsix.
Hein. Exactement.
Oui. Pouf le cascadeur.
Exactement.
Oui. Poufsex.
Qui est mon voisin. Voilà, il y a aussi des stars près des stars.
Vous voyez, il suffit de dire célébrité et finalement
Pantin,
Rago, Peoplerie, enfin c'est une catastrophe. Mais ce podcast va se recentrer d'ores et maintenant, voilà, sur le jeu vidéo. Vous allez voir, on va apprendre pas mal de belles choses puisqu'on a pas mal potassé. Hein, et tout à l'heure, vous entendrez parler, par exemple, de Mokhtar avec Vincent Lagaffe.
Mokhtar.
Et vous comprendrez mieux un petit peu la jeunesse de ce titre. Alors, on va commencer donc avec les personnalités, les célébrités qui ont été intégrées directement dans un jeu vidéo ou qui se sont invitées parfois aussi dans un jeu vidéo. Alors, on a fait une liste par ordre alphabétique, hein, histoire que ce soit un petit peu plus simple. Et on va commencer à chaque fois, je vais dire le nom. Alors, si vous pouviez ne pas trop regarder la feuille, histoire qu'il y ait un micro suspense, etc. Si je vous dis Bulletproof, vous me répondez qui? Oh bah, quelle célébrité?
50 cents.
50 centimes.
Exactement.
50 centimes, ouais. C'est trop facile celui-là.
Voilà. Ouais. Alors, effectivement, c'est.
Facile.
Voilà, on va tourner ma feuille. Donc, effectivement, on resitue un petit peu ce titre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est.
Un jeu d'action.
Il y en a eu deux en fait. Ouais. Il y avait Bulletproof, c'était le premier. Qui est sorti sur PS2, Xbox, si je dis pas
mais
de
bêtises. Mais on a le test hein, sur Gameblog d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. C'était Angèle qui l'avait testé,
ouais. Exactement. Ouais. Et il y a une suite qui s'appelait Blood on the Sand.
Et qui n'était pas si mauvaise que ça.
Non, effectivement.
C'est un jeu d'action avec donc où 50 Cent est vraiment 50 Cent dans un rôle complètement décalé. Ça se prend pas trop au sérieux, c'est ça qui est amusant.
Ouais, c'est assez. Mais le second était très très violent. Mais bon, enfin après.
Tu shootais à tout va, ouais, façon gangsta, voilà, en tenant le flingue à l'horizontale.
C'est ça cadre tout à fait avec le personnage et le folklore de,
et bien
de
sûr,
son
la
genre musical.
De 50 Cent, voilà, derrière, pour te donner du courage.
C'est ça.
D'ailleurs, attends, je crois que c'était, je sais plus où c'était, mais c'est dans, je sais pas si c'était nommé dans le jeu.
C'est en Irak.
Mais je crois que c'était effectivement.
Oui, 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 ouais, tout à fait, oui, oui. Non,
et tu gagnes des bifetons, etc.
Voilà, donc 50 Cent sauve l'armée US en Irak.
C'est ça.
Bah, ah, c'est l'art qui défonce.
Exactement. Bon, là, il n'y a pas de place au mystère. Hein. Il s'agit de Britney Dance Beat. Sur PS2,
ouais,
en
alors
2002.
Ça, c'est un truc, je sais pas si vous vous en souvenez de ce machin, mais je crois qu'on l'a jamais reçu. Je crois qu'à l'époque, il aurait été dans la rubrique, la fameuse rubrique de PlayStation Magazine qui s'appelait
Si mauvais qu'on
ne les a jamais reçus.
Voilà, qu'on ne les a jamais envoyés. Voilà. Ouais, c'est
ça. Donc, bah, c'était un jeu de musique hein, avec Britney dedans, mais bon.
Britney Spears,
c'est peut-être un des plus mauvais jeux musicaux qui soit jamais sorti.
Tous les temps
quoi. Peut-être.
Bah, c'est ça que vous allez voir, c'est que globalement, quand une célébrité participe à un jeu, c'est pas toujours de très haute volée. Hein. Mais il y a quelques exceptions,
ah oui,
et on va les voir dans quelques instants. Alors, il y a Bruce Lee aussi qui a donné son nom à énormément de jeux de combat.
Ouais.
Ça a commencé en 84 avec Bruce Lee, en 89 Bruce Lee Lives, Dragon, The Bruce Lee Story, en 93 Bruce Lee Quest of the Dragon, Bruce Lee Return of the Legend et Bruce Lee Iron Fist 3D.
La main de fer.
Vous aviez joué à ces épisodes ?
Ouais, dans mes souvenirs, il y en avait un qui était sorti sur Jaguar, je crois que c'était le premier, et qu'il était vraiment pas mal en fait. Mais à l'époque peut-être on se contentait de pas grand chose sur Jaguar, je sais pas.
Bah oui, oui, forcément.
J'ai pas joué un perso, mais je me souviens m'être dit si j'avais une Jaguar, je prendrais peut-être celui-là.
Et puis après, il a inspiré des tas d'autres personnages, évidemment, le jeu de baston.
Ah,
oui. Hein,
ah bah clair.
Dans un bon
Fei Long.
Voilà, Fei Long par exemple,
dans
c'est
Tekken.
Du Bruce Lee.
Comment s'appelle-t-il le copain?
Il s'appelle
Paul.
Marshall Law.
Ouais, voilà.
C'est ça.
C'est vraiment Bruce Lee.
Ah oui, oui.
C'est vraiment Bruce Lee.
Un personnage emblématique des arts martiaux, c'est normal qu'il se retrouve dans les jeux de baston, quoi.
Exactement. Allez, on est toujours à la lettre B, et à la lettre B, il y a Brutal Legend.
Babar.
Et là, il y a Babar, effectivement, aussi, mais Brutal Legend, là, c'est, y a pléthore de célébrités dans un jeu complètement décalé, donc dans l'univers rock, bien sûr. Alors forcément... Hard rock, même. Il y a Jack Black, c'est le héros de Brutal Legend, mais on retrouve aussi Ozzy Osbourne et Lemmy Kilmister.
Ouais, le célèbre chanteur de Motorhead. Et ce qui est génial, c'est que Ozzy Osbourne incarne le Seigneur des Ténèbres, celui qui te file tes...
Comme dans la vraie vie, quoi.
Exactement, voilà.
Est-ce qu'il mange des chauves-souris dans Brutal Legend?
Je crois pas.
Non.
Non, mais par contre, il est exactement pareil que c'est vraiment lui, quoi. C'est exactement le même. Alors que Jack Black, bon, c'est le héros du jeu, mais il est un tantinet différent, il est un peu cartoonisé, etc. Alors que Osbourne et Kilmister, c'est exactement eux, quoi. C'est leur look et c'est leur voix, etc. Il y en a d'autres. Hein,
puisqu'on
dedans.
Est dans les anecdotes avec Jack Black, regardez sur YouTube la toute première pub de Pitfall, américaine, bien sûr, et vous allez découvrir Jack Black à 8 ans. En train de faire la pub de Pitfall, c'est lui, genre habillé en aventurier un peu comme comment ça s'appelait le truc avec on y va en route pour l'aventure. Bah c'était en route pour l'aventure.
Oui. C'était une pub pour le manga ça.
Oui, mais il y avait l'émission sur FR3 à l'époque.
D'accord.
C'était génial.
Non, c'était la 5. Ah, c'était sur la 5.
Je crois que c'était sur la 5. Je rêvais d'y participer.
Moi aussi.
Oh, putain, c'était.
C'était pas le truc c'était où il y avait une sorte de souterrain à la Dungeon Master et t'avançais case par case
Ça c'était avec Sega et ça c'était avec.
Avec des lianes et tout ça machin.
Exactement.
Faire un parcours,
c'était Indiana Jones quoi.
Fort Boyard pour les enfants.
Exactement. Ouais. Alors Brutal Legends, on en parle quand même rapidement, c'est un très bon exemple de ce qui peut se faire de bien lorsqu'on utilise des célébrités, bien évidemment pour avoir leur aura, leur charisme, se faire un peu de pub aussi, mais les intégrer dans un univers très cohérent, c'est très bien fait.
Ah bah oui, c'est les empereurs de ce genre musical, donc c'est presque logique qu'on les retrouve dans le jeu qui dédie toute son aventure à ce thème-là, quoi. Enfin, à la thématique de toute cette période rock. C'est pas les seules stars du heavy metal d'ailleurs qui sont liées à des jeux vidéo, on va le voir.
Dans quelques instants. Ouais.
Mais oui, et puis c'est surtout, je crois, le premier vrai bon jeu de la liste en fait.
Oui, enfin, c'est aussi ça.
Bravo.
Et puis tu vas voir, pendant un certain bout de temps, ça va être le seul.
D'accord.
Par exemple, si je vous dis Celebrity Deathmatch.
Ah oui.
Alors ça, c'est l'adaptation d'un programme de MTV, mais alors donc avec des petits bonhommes en pâte à modeler, sur lequel des stars ou des pseudo-stars comme Anna Nicole Smith, paix à son âme, Buster Rhymes, Carmen Electra, Justin Timberlake, Dennis Rodman.
Elle est morte,
Anna
Nicole Smith.
Oui, elle est morte.
Oui.
Oui. Jerry Springer, Marilyn Manson, Master T, Ron Jeremy, Shannon Doherty.
Ah, Ron Jeremy, ouais.
Et Tommy Lee se mettait sacrément sur la gueule.
Ouais, c'était des matchs de catch, en fait.
C'est ça.
C'est Body Death Match.
C'était très tourné américain, quand même. Hein. C'était.
Mets-lui bien le micro sous la bouche.
C'était vraiment très très américain, quoi. Je veux dire, t'aurais jamais vu aucune célébrité européenne ou française ou occidentale, enfin de côté
arrache.
En tout cas de l'Europe, quoi.
Ouais, s'arracher la tête.
Américano-américain, quoi. Voilà, ouais. Exactement.
Mais finalement, c'était assez rigolo.
Il y avait
rigolo,
pas Pierre Bachelet, quoi.
Mais c'était plutôt rigolo, finalement. Enfin, c'est très deuxième degré.
Ouais, mais c'était pas.
C'est
très...
un peu Iggy Scratchy dans les Simpsons,
ouais.
Mais
c'était
avec
un peu débilos, quoi.
Oui. Ça s'assumait.
Ouais, ouais. Moi, j'étais pas très fan du programme sur MTV. Je sais pas ce que valait le jeu, mais.
Mais dans l'idée, c'est marrant de se foutre sur la gueule avec des célébrités.
Ah oui, oui.
Il y a des célébrités que tu as envie de taper. Donc ça...
À qui tu penses en particulier?
Personne. Un carré VIP avec des matchs à mort, ça serait la classe, quoi. Michael Vendetta contre FX, puis le plus fort gagne, quoi. Il ne peut en rester qu'un.
Enfin, Vendetta, c'est clairement pas le pire bien. De.
Mais ça sera des jeux de verbal, du coup.
Ah non, mais il faudrait
d'abord. À la Monkey Island avec des insultes.
De façon UFC, tu vois. Vraiment, faut y aller, quoi.
Bon, on ne garantit pas la tenue de ce podcast jusqu'à la fin, mais bon. Là, c'est un petit peu plus difficile. Un tout petit peu. On arrive dans la lettre C avec Chaos in the Windy City.
Bah voilà un jeu qui était pas mal.
Ah, alors quelle célébrité faisait partie de ce titre?
C'était, si tu penses déjà Windy City, c'est Chicago. Mm-hmm. Et en fait, c'était Michael Jordan. C'était un jeu d'aventure avec Michael Jordan que j'avais sur ma Super NES, où tu devais retrouver tes potes basketteurs qui avaient été enlevés par le Dr Brain, je crois, ou un truc comme ça. Et tu te retrouvais dans des manoirs un peu hantés, dans des labos et tout, et t'avais des pouvoirs selon les ballons que tu prenais. Donc t'avais genre le ballon de feu que tu pouvais balancer à foison, le ballon de glace, un ballon rebondissant partout pour choper des items dans le niveau. Mm-hmm. Et il y avait un ballon qui était assez rigolo, c'était celui qui ressemblait à une boule de bowling, en fait. Mm-hmm. Et quand tu faisais un dunk, tu laissais retomber le ballon genre sur un plancher, et ça ouvrait des passages secrets dans le niveau.
Mais alors, juste parce que moi j'ai pas
connu
ce jeu, tu me parles de dunk, ça se passe comment, l'aventure et le basket mêlés?
Bah en fait,
t'avais un mouvement du perso qui se dunkait,
ouais,
en fait,
ça,
quand il sautait.
C'est-à-dire que dans un univers presque des fois, bah, pas aussi glauque, mais un peu à la Splatterhouse, tu vois, un peu glauque, quoi. Et tu te servais vraiment de tes ballons comme des items, quoi. Donc tu faisais les mouvements, genre les tirs à trois points,
mais tu
te battais
des ballons
enflammés.
Ennemis.
Ouais, ouais, tu leur balançais.
Donc il y avait un panier qui se mettait sur leur tête.
Non, c'est juste tu leur balançais des ballons dans la tronche.
D'accord.
Et des fois, t'avais en effet des paniers pour certains passages, genre comme je te le disais, pour éclater le sol.
Et
ouvrir des passages. Mais c'était
d'accord.
Pas mal du tout.
C'était
un jeu EA, je crois. 94, si je me rappelle bien. Et c'était pas mal du tout.
D'accord. Donc par exemple, on parlera pas de Space Jam, parce que Space Jam, c'est une adaptation. Oui. Donc forcément, il était dans le film. Donc forcément, il est dans le jeu. Là, c'est une fois de plus, on vous le dit, les célébrités qui se prêtent au jeu du jeu vidéo dans des cadres qui ne sont pas ceux habituels.
Et puis à l'époque, avoir un jeu entièrement consacré à Michael Jordan, c'était quand même la méga classe pour beaucoup, parce que je vous rappelle un peu l'aura de Michael Jordan dans les années 90.
Bah, il continue à vendre des pompes à mort. Hein.
Bah ouais.
Il y a d'autres basketteurs qui s'y sont essayés. On en parlera tout à l'heure plus tard dans la liste, par exemple, du côté des S. On continue avec double jeu. Alors, un qui est un petit peu tangent au niveau de l'adaptation, il s'appelle des Chroniques de Riddick. Et un second, où là on est totalement dans le cadre de ce podcast, avec Willman. Il s'agit bien sûr de Vin Diesel.
Vin Diesel.
Qui aime beaucoup les jeux vidéo. Hein.
Qui a monté sa boîte.
Bah oui, ça s'appelle Tygon Studios. Ouais.
Exactement. Comme Tiger, mais avec un gun à la fin.
C'est ça.
Phrase parti sur une autre planète. Donc on parle rapidement de ces deux titres. Chronique de Riddick. Justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une adaptation du film à proprement parler. Hein.
Non, ça reprend évidemment le personnage principal de Riddick, qui était incarné dans Pitch Black la première fois par Vin Diesel. Mm-hmm. Ça se passe avant Pitch Black. Pour ceux qui connaissent pas trop, en fait, c'est un personnage un petit peu tendancieux, plus ou moins criminel, un marginal qui se retrouve donc emprisonné dans une tôle qui s'appelle Butcher Bay. Et donc, en fait, le jeu raconte cette l'histoire de son évasion de Butcher Bay, de son transport jusqu'à Pitch Black. Voilà. Mm-hmm.
Et le jeu est pas si mal que ça. Hein.
Ah, il est pas. Non seulement il est
bien,
pas si mal, il est super bien.
Ouais, ouais.
Comme
le film
est vraiment super bien. Le film est extraordinaire aussi. Ouais. C'est une très très bonne série B. Mm. Enfin, je trouve. Et le jeu était très très bien. Ouais, développé par Starbreeze Studios et donc Tygon, la boîte de Vin Diesel. avec
Starbreeze,
dans le jeu.
C'est qu'avait fait Thief
et The Darkness.
Non,
ils ont fait The Darkness 1, oui. Ils ont fait un autre jeu qui s'appelait Enclave sur Xbox il y a super longtemps.
Ah putain, ouais, c'était super joli.
Qui était joli, mais pas très, très intéressant. Ils ont fait d'autres trucs aussi qui m'échappent là. Mais c'est un studio assez sympa. C'est des Scandinaves. Et donc, dans le jeu, évidemment, on incarne donc Riddick, qui est lui-même modélisé sous les traits de Vin Diesel. Qui lui prête aussi sa voix rocailleuse hyper caractéristique.
Elle a une putain de voix, lui.
Ouais, il a une putain de voix. Ouais. Mais alors, c'était un très très bon jeu.
Alors ça, c'était un très bon jeu. En revanche, Willman, là, qui est véritablement fait pour le jeu vidéo en intégrant Vin Diesel comme sa star, sa vedette, là, par contre, c'est pas très bon. Hein.
C'était mauvais, même.
Ouais, Julo.
Bon, c'était un jeu de caisse un peu à la
Driver,
Driver, hein. Avec plus de scènes de shoot, quoi, où tu sortais ta bagnole et tu liquidais les gens. Voilà, c'était un jeu très moyen, voire médiocre.
Mais il avait failli ne pas sortir d'ailleurs, non ?
Mais oui, il y avait eu un souci effectivement. Il y a pas longtemps, mon cerveau avait bugué. Je pensais même qu'il n'était pas du tout sorti. Si, en fait, il a fini par sortir après des retards ou des annulations.
Inaperçu,
et finalement, il est passé assez inaperçu. Ouais.
Tant mieux, il ne mérite pas beaucoup plus d'attention.
C'était pas génial, non.
Alors, dans la série des Command & Conquer, eh bien, il y a énormément de vedettes aussi qui ont prêté leur visage, leur voix, tout ce que vous voulez.
Oui, parce que Command & Conquer est évidemment célèbre pour ses cinématiques live action, donc filmées normalement avec des acteurs, etc.
Et alors là, j'ai appris, je ne le savais pas, je n'ai pas joué à Command & Conquer 3, mais dans cet épisode-là, il y a Josh Holloway, le Sawyer de Lost. On retrouve aussi pas mal de personnes du casting de, de Battlestar Galactica, comme Tricia Hefner.
Ah oui, la fameuse blonde qui joue la Cylon, c'est la numéro, je ne sais plus combien.
Cylon, oui. Grace Park,
elle aussi, qui
c'est
joue
Boomer dans,
Battlestar
Galactica, putain.
C'est l'Asiate.
Il y a aussi Billy Dee Williams.
Ouais, Billy Dee Williams, ça c'est une putain de star.
C'est comme on fait les chose, détecteurs, s'ils ne savent pas. Les étoiles de la mort,
c'est dans Star Wars. Hein.
Et oui, il y a le célèbre Michael Ironside aussi.
Exactement.
Qui a joué notamment dans Starship Troopers. C'est des acteurs un petit peu de second rôle pour le cinéma en tout cas. Ironside, donc c'était Starship Troopers, c'est lui qui jouait le gros balèze qui avait perdu son bras. Il a joué dans quoi d'autre? Il a joué dans la série V, la première, et je crois qu'il fait d'ailleurs un caméo dans la nouvelle, il me semble, mais j'ai pas trop maté. Et puis c'est un personnage voilà, avec une putain de gueule, quoi. Il a du charisme, il a une putain de voix aussi. Il a joué dans d'autres trucs qui m'échappent.
Mais il y a donc,
noté là-dedans.
Il y a donc du Lost, il y a du Star Wars, il y a du Battlestar Galactica. C'est un très joli casting quand même.
Oui, oui. Enfin, ça, c'est seulement pour le 3 en plus. Mais évidemment, les autres Command & Conquer ont tous plus ou moins maintenu cette tradition des cinématiques filmées, avec, on va dire, plus ou moins de réussite. Des fois, ça fait un peu kitsch quand même. Oui. Mais du coup, il y a effectivement pas mal de vrais acteurs qu'on a vus ailleurs, soit dans des longs métrages, soit dans des séries télé.
On a oublié aussi Jennifer Morrison. Qu'on peut voir dans la série House.
House. Ouais, elle joue Cameron dans Doctor House.
Numéro 13, c'est ça?
Non, c'est le début.
Ah, c'est l'autre. Elle était très jolie aussi.
Numéro 13 encore à l'époque.
Allez, on passe maintenant à la lettre G. Et quand on parle de G, il y a forcément du GTA dans l'air, Grand Theft Auto. Alors, dans l'épisode de Vice City Stories, on retrouve carrément Phil Collins dans son propre rôle, Raon.
C'est pas la seule célébrité qui incarne son propre rôle dans la série GTA.
On va
c'est un peu
du
des
4
guests.
Dans quelques instants.
Ouais, bah voilà. Dans le 4, il y a Karl Lagerfeld qui a sa propre station de radio et qui se fait appeler DJ Karl.
Exactement. La radio K109 de studio.
Quand on écoute les radios dans GTA, il y a de la musique et puis il y a aussi des radios avec des petits messages, etc. Donc il y a Karl Lagerfeld avec son accent caractéristique. Qui parle là-dedans, il y a Samuel L. Jackson qui joue un personnage important
qui
aussi.
Qui fait Tenpenny dans San Andreas, le flic relou qui te l'a fait à l'envers pendant tout le jeu. Mais de toute façon, tout l'univers GTA, c'est un pastiche de célébrité dans San Andreas quand tu vas dans le studio du producteur. Je sais plus comment il s'appelle, Matt Z ou je sais plus, mais c'est clairement Snoop Dogg. T'as clairement Dr. Dre. Enfin,
c'est Snoop Dogg,
tout l'univers est un pastiche.
Mais t'as aussi, d'ailleurs, t'avais l'avocat de. Putain, c'est quoi ce film de mafia avec. Avec Al Pacino et.
Les Affranchis ?
Non. Oh là là, t'as des l'avocat qui est joué par Sean Penn, qui est méconnaissable.
Ah oui,
aucun,
en
ouais.
Oui.
Ah là là, un film extraordinaire.
Putain, oui. J'ai plus le nom non plus.
Enfin bref, oui, il est aussi dans GTA. Voilà, c'est vraiment lui quoi.
Mais ça apporte un vrai plus. Hein. Je sais que Jackson qui faisait Tenpenny, parce que Jackson aussi il a une voix très particulière, une interprétation, ça te met encore plus dans l'ambiance comme ça dans San Andreas des années 90. C'est vraiment excellent.
Donc ça, ce sont des célébrités qui ont apporté des petits plus quand même, mine de rien.
Toujours un très bon casting au niveau du.
Soit en faisant des caméos sous leur propre nom, donc ils incarnent leur propre rôle. Ce qui est toujours amusant, soit effectivement prêtant leur voix ou leur visage.
On verra au niveau des doublages dans quelques instants que la liste est quand même de Dennis Hopper à Mark Hamill, de Ron Perlman à Patrick Stewart. Il y en a quand même une sacrée tripotée. Et forcément, ça coûte un tout petit peu moins cher d'utiliser juste leur voix que la voix plus la gueule plus machin.
On sait que c'est Mark Hamill hein, qui a commencé à faire ça, j'ai l'impression, il me semble, il y a très longtemps.
Et lui, il est passé par l'animation avant. Ouais, c'est pour ça aussi.
Oui, c'est la voix du Joker dans la série animée Batman.
Et dans le jeu. Mais
on en parlera tout à l'heure.
Ouais. Exact.
Voilà, alors on continue, cette fois-ci la lettre H, avec Heavenly Sword. Tiens.
Ah oui.
Et là, c'est Gollum. Gollum. Bah, Andy Serkis.
Andy Serkis.
Serkis,
ouais.
Pas Serkis.
Bah en fait lui il est spécialisé un petit peu, c'est un petit peu différent parce que il s'est petit à petit spécialisé dans l'incarnation de personnages virtualisés au cinéma quoi, de Gollum, King Kong, etc. Donc il était sur les plateaux et il tournait avec eux, mais il était motion capturé et remplacé après dans le film.
C'est lui qui a interprété King Kong.
Oui.
Oui.
Non mais pour de vrai.
Sérieusement,
pour
sérieusement, je savais pas.
Bah oui.
Pour les émotions, le regard,
je savais
les gestes.
Il y avait des mecs dans les costumes de Godzilla et de King Kong à l'époque, mais je savais pas qui. Enfin bref.
Si, même travail que pour
j'apprends
Gollum.
Plein de choses.
Et donc il a beaucoup travaillé avec le studio Ninja Theory.
Je crois même qu'il est actionnaire hein, en partie.
C'est possible. C'est possible. Ça, je sais pas, mais c'est possible. En tous les cas, il est très très mêlé avec eux. Il a fait donc Heavenly Sword. Il jouait le roi Bohan, le grand méchant de Heavenly Sword, qui avait vraiment son visage en un petit peu dégradé, tu vois, un petit peu plus.
Il était reconnaissable.
Oui, il était reconnaissable, mais il y avait, enfin, les visages d'Evelyn Sword sont peut-être une de ses plus grandes qualités d'ailleurs. Sa voix, et puis il a incarné plus récemment, toujours chez Ninja Theory, le personnage de Monkey dans Enslaved. Voilà, qui là pour le coup ne lui ressemble pas du tout, mais toute la motion capture c'est lui. Et il a dû aussi probablement prêter sa voix à d'autres trucs, notamment les adaptations vidéoludiques des Lord of the Rings. Etc. comme d'autres qu'on va voir après aussi quand on s'intéressera plus au doublage, parce qu'il y a aussi cet aspect des acteurs qui reprennent leur rôle dans les jeux vidéo adaptés de leur propre film. Donc voilà, ouais. Et puis il continue à bosser avec eux, je crois, pour Devil May Cry. Le reboot.
On va suivre ça de près. Jackie Chan action kung fu. Bon bah là, pas grand chose à dire à part que bon,
devinez qui était dedans.
C'est une sorte de double dragon mais avec Jackie Chan quoi.
Je pense qu'il a été doublé à mon avis.
Je sais pas.
N'importe quoi.
Je ne sais pas.
Il y avait eu un autre jeu Jackie Chan d'ailleurs sur. C'était sur les 32 bits je crois, PS2 et compagnie. Qui était aussi un petit beat démo rigolo, mais pas extraordinaire.
Mais il a tout fait Jackie Chan. Tu sais qu'il a même chanté. Il y a des CD de Jackie Chan.
C'est vrai.
Ah ouais, j'ai un ami qui a un CD dédicacé de Jackie Chan.
Plus il a surtout incarné Chun-Li.
C'est ça. Ouais. Oui, ça c'est magnifique.
Non. Dans Nicky Larson.
Ce mec est un génie.
Allez, on passe à Killzone 3, puisque là c'est la voix, mais aussi le physique.
Arrangé aussi
de
un petit
Malcolm
peu.
Malcolm McDowell.
Ouais.
Non pas Andy. Et donc lui, c'est le physique prêté au rôle clé de Joran Stahl.
Voilà, l'industriel, enfin le patron du fabricant d'armes. Et c'est sa voix. Alors, Malcolm McDowell, il est surtout connu pour son rôle dans Orange Mécanique et aussi dans Caligula. C'est un des rares films à peu près sérieux d'ailleurs qui est jamais sorti avec ses films X, mais je crois qu'il est avec ses scènes X. Enfin. Bref.
Quoi?
Caligula, c'est trash hein, quand même.
Oui, il y a des scènes extrêmement sexuelles.
Mais je crois qu'effectivement, il est classé X.
Il y a une version classée X, oui, avec une énorme partouze à la fin.
Et c'est comme l'Empire des Sens, quoi. C'est genre, il y a des scènes explicites.
Exactement. J'ai vu que la version soft.
C'est exactement comme ça.
Je précise.
Un long film, donc Peplum, etc. Et puis, il a tourné plus récemment dans plusieurs séries, notamment Entourage, où il joue le patron d'une des boîtes de manager de célébrités, et Heroes. Où il joue aussi, j'ai oublié le nom de son rôle, mais.
Mais Malcolm McDowell a aussi joué dans un autre jeu vidéo. Là, il incarnait l'amiral Geoffrey Tolwyn dans Wing Commander 4.
Ouais. Ah oui, Wing Commander, c'est pareil que Command & Conquer. Il y avait des scènes, donc il y a Mark Hamill aussi. Dans
films,
Commander.
Bah oui, c'est surtout lui qui a commencé là-dessus. Là.
Ouais, ouais. Donc des scènes voilà, filmées aussi en live.
Bah, ça rendait plutôt pas mal dans ce jeu-là, justement.
Ouais, sauf les Kilrati, donc les espèces de tigres, oui, là, tu sais, la race qui était un peu genre. T'avais un peu l'impression que c'était les meupettes.
Bah, techno à l'époque, oui, c'était pas vraiment ça, mais déjà, c'était impressionnant quand même de voir ça pour la première fois.
Mais le jeu était super bien à l'époque.
Le jeu était bien foutu en plus, ouais. Bah, c'était un vrai film interactif, hein, tout simplement.
Il y avait, bah, il y avait surtout des scènes de dogfight de ouf, Space Opera, machin. Ouais. C'était, à l'époque, ça se faisait encore pas trop, pas mal. En série télé et tout ça, le Space Opera, ça marchait pas mal. Aujourd'hui, il y en a moins, mais bon. Il a fait un film d'ailleurs après Chris Roberts, le créateur de Wing Commander, a fait un vrai film de merde.
Ouais. C'est ce que je veux dire.
Mais voilà.
Space Opera
Bah, dans son univers de Wing Commander, ah, un vrai long métrage.
Ah oui.
Et après, voilà. Il a disparu. Je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, mais bon, bref.
Je sais pas non plus.
Si je vous dis Make My Video,
Chris Cross.
Ah, Make My Day.
Bah voilà. Oh, est-ce que vous vous souvenez?
Moi, je me souviens surtout des pantalons à l'envers. C'est surtout
c'est ça
qui m'a marqué.
Chris Cross, c'était génial à l'époque.
Est-ce que tu as mis tes pantalons à l'envers?
Je l'avais fait, j'avais essayé une ou deux fois. Quand t'allais au shot, c'était un peu la galère. Mais ouais, c'était rigolo, moi j'aimais bien. Et donc là, oui, on pouvait faire son petit clip vidéo à la con, assembler les scènes, ça ne voulait pas dire grand-chose, hein. c'était purement une opération commerciale. Hein, mais...
Ouais, c'était sur les titres méga CD avec du full motion vidéo, le truc à la mode à l'époque parce qu'il y avait le support CD, et voilà quoi, mais c'était pas, ça pissait pas bien loin.
C'était pixelisé, c'était moins beau que ce que vous avez aujourd'hui sur YouTube en 360, mais, mais bon, c'était sympathique, rigolo.
The Night Trap.
Dans Elle est Noire, un titre beaucoup plus récent puisqu'il n'est pas encore sorti, eh bien on trouvera aussi d'autres acteurs assez célèbres. Parce qu'effectivement, il y a quasiment.
Plus ou moins célèbres, effectivement.
Ouais. On retrouve par exemple Aaron Staton. Ou Alexa Alemany.
Ouais, c'est deux acteurs de Mad Men, super série. Mais je crois j'ai cru comprendre que le directeur de casting de Elle est Noire avait travaillé sur la série, donc il a ramassé énormément d'acteurs qu'on jouait dedans. Donc c'est un petit peu, tu sais, ces visages familiers que t'as déjà vu quelque part, mais tu sais pas forcément où, mais c'est des acteurs que tu connais depuis longtemps, etc. Et il y en a vraiment un énorme paquet dans Elle est Noire. Et là, pour le coup, avec la technique du motion scan, etc., c'est vraiment leur visage, leurs expressions et leur jeu d'acteur, plus leur voix, plus tout le reste. Donc c'est vraiment eux. Et là, il y a carrément plus de frontières finalement entre les deux, quoi.
Mais c'est là où c'est intéressant, justement, c'est quand des acteurs avec une vraie expertise, une vraie expérience de leur art, de leur métier, le transfèrent et l'apportent dans le jeu vidéo, mais pas du tout en leur nom ou pour vanter leur propre mérite, mais pour camper d'autres personnages virtuels, eux.
Bah, c'est un vrai casting, ils incarnent des personnages fictifs dans l'univers du jeu, et ça n'a rien à voir avec effectivement les caméos des autres, mais ils sont remodélisés derrière, mais au fur et à mesure de la progression des technologies, ça devient de plus en plus réaliste, quoi.
Allez, on va passer à l'instant émotion, l'instant souvenir de ce podcast, avec un jeu auquel franchement je pense que tout le monde ici en tout cas a joué, peut-être pas chez vous, mais si c'est pas le cas, franchement il faut trouver un moyen d'un émulateur ou je ne sais quoi. Il s'agit de l'apparition vidéoludique de Vincent Lagaffe dans son plus beau rôle, Mokhtar, les aventures de Mokhtar. Alors, Tiger, c'est extraordinaire.
Les aventures de Mokhtar, volume 1, La Zoubida.
La Zoubida.
Ce qui veut dire qu'il aurait pu y avoir une suite.
Ouais, c'est ça qui m'a trompé en fait. J'étais persuadé qu'il y avait une suite.
Voilà, parce que c'était volume 1 ou épisode 1, je sais plus, La Zoubida.
Ouais, tout à fait.
Donc en 1991 sur Amstrad CPC, après sur PC, sur Game Boy. Il y a même eu une version Game Boy Color, je crois, en 2000.
Il n'y a pas eu une version Super NES ?
Non, il n'y a pas eu de version Super NES.
Édité par Titus.
Oui, d'ailleurs, vous pouvez avoir un super résumé, une super interview du type qui s'est occupé des aventures de Mokhtar dans le Pixel Love numéro 15. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en gros, c'est un jeu qui a été créé par Titus pour surfer sur le succès de Vincent Lagaffe, parce qu'il faut se rappeler quand même que la
c'était
Zoubida...
C'était l'époque où il chantait Il est beau le lavabo et tout
bah
ça.
Bah ouais, c'était
après
le bidet. C'est-à-dire que la Zoubida, c'était au top du top 50, quoi.
Ce soir à Barbès, un bal y est donné. Exactement. La Zoubida voudrait bien y aller.
Quelle classe. C'est exactement ça.
Je vous racite les premiers vers.
Et visiblement, il y avait déjà...
Patrimoine culturel français, monsieur.
Il y avait déjà des images qui annonçaient le jeu dans le clip. Vidéo, ouais, c'est ce que j'ai lu dans
Pink Cell. Complètement cross-média.
Ouais, et le truc en fait, c'est que le patron de chez Titus croise Eric Zimmo, si je me trompe pas.
Non, c'est la page d'avant.
Ouais. Eric Zemmour, t'es sûr?
Eric Zmiro qui s'est occupé donc du développement du jeu, il le croise dans les couloirs et en gros il lui dit bon voilà, on a la licence avec Vincent Lagaffe pour la Zoubida,
licence, allez,
tu me prends les Blues Brothers et tu me fais le même jeu mais avec Lagaffe, t'as 3 mois. Donc comme j'en parlais avec Trace qui visiblement a connu le jeu les Blues Brothers,
ah oui, évidemment, j'ai joué.
Qui était un bon jeu et donc oui, du coup Mokhtar était plutôt un bon jeu, un jeu de plateforme assez classique mais plutôt
bon. Franchement c'était vraiment un très très bon jeu. Par contre, la seule difficulté c'était que ça se jouait au clavier, en tout cas la première version. C'était pas si évident que ça parce qu'il y avait un petit peu de latence, enfin d'inertie pardon, quand tu sautais de plateforme en plateforme. Mais pour l'époque en tout cas c'était vraiment, c'était presque un chef-d'œuvre. Je crois que dans Joystick c'était Seb qui l'avait testé et du coup je crois qu'il avait mis une très très bonne note, hein. C'était même un méga star Joystick il me semble, de mémoire.
Putain, les aventures de Mokhtar. Alors ce qui est amusant de voir justement dans le Pixel Love 15, c'est qu'il y a eu plein d'adaptations bien sûr, il y en a eu aussi sur Game Boy et Game Boy Color.
Tout à fait.
Où là ils ont repris l'univers mais c'est plus Mokhtar,
c'est ça,
c'est le perso c'est Titus quoi.
Tout ouais, à fait, c'est exactement. En fait la version internationale parce que forcément
parce que Mokhtar
c'est franco-français quoi. Donc,
même Vincent Lagaffe d'ailleurs. Hein.
Oui, c'est le petit renard de Titus qui a été utilisé.
Mais regardez quand même.
La jaquette est formidable.
Zoom, Poufy. Regarde la gueule de Mokhtar.
Mokhtar encore.
Je sais pas, on dirait un pot de moutarde sur lequel on a posé.
Un pot de Mokhtar.
Je sais pas, du PQ. C'est quand même improbable.
Ah, tu te moques.
Ben non, mais il est très très laid.
Avec des chameaux, avec des serpents à lunettes.
Enfin, bidets, hein.
La bonne époque où on mettait des lunettes à tous les animaux et
c'est
ils
ça.
Devenaient classe.
C'est les franches potes.
Ouais, c'est exactement.
Non, blague à part, pour l'époque, c'était vraiment un super bon jeu. Hein.
Ah ouais, moi j'avais bien aimé.
C'est une belle réussite.
J'ai honte, mais. Mais c'était rigolo.
Comme quoi, avec les licences les plus mercantiles qui soient, on peut réussir à faire
bah
un bon jeu.
Après, je sais pas si c'est
à la fois, est-ce que c'est pas parce qu'on était un peu jeunes aussi qu'on trouvait ça rigolo?
Bah, c'est surtout à l'époque, niveau plateforme,
il y avait
pas grand chose d'extraordinaire. Enfin, en tout cas, déjà sur PC, quand il est sorti.
Trace était déjà vieux.
C'est un super truc, quoi.
En tout cas, voilà, vous l'aurez compris, les aventures de Mokhtar volume 1, la Zubida.
On va faire le 2 bientôt.
Bah, ça nous avait quand même assez fait sourire. Et en tout cas, c'est bon. Même si on reconnaît pas du tout Vincent Lagaffe. Enfin, bon.
C'était peut-être un des meilleurs jeux Titus d'ailleurs.
Ouais.
C'est
peut-être bien, ouais.
Alors là, on a de la méga star parce que Vincent Lagaffe, c'est sympathique. Mais
Lagaffe, encore.
Là, on a de la star internationale. Il s'agit de David Bowie dans un jeu, néanmoins, une fois de plus, français. Puisqu'il s'agit de Omicron Nomad Soul, le premier jeu de David Cage en fait, et
de Quantic Dream, ouais.
Exact.
Bah, il apparaît vers la fin du jeu, en fait, j'ai un vague souvenir visuel de sa peau en bleu,
avec un méga concert
avec des éléments dorés autour.
Ouais, c'est évidemment
c'est
un jeu de science-fiction qui se passe dans un futur d'anticipation dans lequel tu peux passer d'un corps à un autre. Et donc ouais, il y a cette histoire de concert à la fin où il interprète un titre qu'il a écrit spécialement pour le jeu.
Voilà, exactement.
C'est fou quand même.
Ouais.
C'est un premier jeu. Entre guillemets, à l'époque, c'était un jeu sympathique, enfin avec un peu d'ampleur, mais enfin c'est pas non plus un méga blockbuster. C'est un petit jeu français des gens qui se lancent.
Ouais, David Bowie,
il fait. Allez hop, c'est parti.
Mais justement, je me souviens plus comment c'était venu ça, qui propose justement ses services, ou bien si c'est David Cage qui lui a demandé. Il a dit ouais, pas de soucis, moi j'adore les jeux, je sais plus. Je sais plus exactement de l'anecdote, mais en tout cas
je crois qu'ils se sont rencontrés
fortuitement comme ça, et il a dû lui en parler, et du coup il a fait
le
écoute moi pas de problème, je te fais la bande son si tu veux.
Parce qu'à ma connaissance, c'est la seule participation de Bowie dans un jeu.
Bah, il me semble, il est un peu discret quand même depuis quelques siècles, hein,
Mais il a un goût pour le travestissement et changer de peau, David Bowie, donc ça colle très bien avec l'idée du jeu.
Exactement.
Il a été dans des univers très fantaisistes aussi, au cinéma, il était dans Labyrinthe. Enfin, il aime bien visiblement aller dans des trucs un peu fantaisistes, donc ça lui va très bien, ce rôle.
Là où on ne l'attend pas.
Exactement.
Exactement.
En tout cas, c'était une performance assez inattendue et intéressante.
Ça fait beaucoup parler du jeu aussi,
bien sûr,
avec ça.
C'est une
peut-être même plus avec ça. Donc,
sans David Bowie, oui, il y a eu,
enfin,
y a eu
marketing,
beaucoup de projecteurs qui se
voilà.
Seraient pas tournés, braqués sur Omicron, qui était au demeurant un bon jeu.
Exact.
Dans un rôle beaucoup plus débridé et n'importe quoi, il nous a quittés il y a quelques années. Il n'était pas bien grand, mais fort sympathique. Gary Coleman, le Arnold d'Arnold et Willy.
Fais-le, Traz, il le fait super bien.
Hein,
Arnold.
Mais non, mais c'est pas la voix d'Arnold, ça.
Mais c'est pas grave.
C'est Arnold et Willy. Tu sais pas
c'est
ça,
bon, bah, voilà, okay. Il en faut peu pour faire un monde.
Ah, toi, tu parles du père d'Arnold en fait.
Oui,
d'accord.
Monsieur
la voix du grand, quelle voix du grand Schtroumpf en fait. Ouais.
De Gargam. Ah,
Arnold.
Arnold. bon, bah le jeu en question, c'est Postal 2. Qui veut nous parler de Postal 2?
Jean Caron, il l'a fini.
Non, pas du tout. Du tout. Non. Mais c'est un caméo, ça encore. En fait, il incarne son propre rôle.
C'est un caméo.
Postal.
Il me semble.
Attends, c'est ce jeu où tu mets des chats sur des mitraillettes ?
Où tu fais toutes sortes de choses bizarres, débiles et souvent gore, et voilà, et qui a donné lieu aussi à une adaptation cinématographique de notre célèbre Uwe Boll.
Ah, faut que je vois ce truc.
T'es pas obligé, hein.
Ouais.
Bon, en tout cas.
Et par contre, on l'avait croisé le 3, je crois que c'était avec toi.
Plein de fois, chaque année, ouais.
Ah oui, tu l'avais croisé.
Ah bah, tous les ans, il était là, donc il va nous manquer.
Il était pas gardien de parking.
Si, si.
Oui, il y avait un épisode des Simpsons où on le voyait gardien de parking.
Il était gardien de parking. Et justement, il se payait un petit kiff à l'E3. Il était toujours escorté de 2-3 hôtesses, etc. Il devait être payé par un éditeur pour venir sur son stand ou etc.
Ça c'est la malédiction.
C'était son petit moment de gloire et enfin il y en a eu d'autres hein, mais c'est vrai qu'il a visiblement eu une fin de vie et de carrière beaucoup plus contrastée.
La malédiction d'Arnold et Willy. Et la sœur qui a fait du porno.
Non, non, elle s'est surtout shootée, elle est morte.
Oui, oui, mais Willy qui a fini en prison. Oui, c'est d'ailleurs, dramatique.
Ouais. Monsieur Drummond qui nous a quitté.
C'est ça, Drummond.
Monsieur Drummond qui est devenu président des États-Unis.
Enfin bon, tout est possible. Voilà. On passe à autre chose avec The Nightmare Child Psycho Circus.
C'est quoi ce truc?
C'est avec Kiss.
C'est avec le groupe Kiss.
Ah oui, bien sûr, mais c'est le plus grand groupe de tous les temps. Tout le monde le sait.
Alors Traz, parle-nous de Psycho.
Écoute, Psycho Circus, albums, The Nightmare
c'est
Child.
J'ai fort estimé. Je sais pas de quoi ça parle, pour être honnête. Et je sais pas, c'est un jeu musical, c'est ça?
Non, bah, je
au hasard,
pas.
Hein.
Non, bon, je dis ça pas. Comme
non,
ça.
C'était un, FPS.
Ah bon?
Oh, moi, j'avais joué sur Dreamcast dans un univers un peu à la Spawn, finalement.
Oui, oui,
ouais.
Oui,
un
oui,
peu
oui,
dark
oui.
Comme ça. Puis bon, bah voilà, t'incarnais les membres du groupe, donc les célèbres rockers.
Ah mais oui,
maquillés,
ça me revient. Ça me revient. J'ai pas joué, mais ça me revient.
Gene Simmons avec sa langue comme ça. C'était un peu ouais, cet univers un peu à la Gene Simmons quoi,
avec les pics,
les épaulettes de ouf et tout ça, machin.
Voilà, FPS, voilà.
C'était pas terrible. Hein.
Non,
je pense pas.
Non,
voilà.
C'était pourri.
Mais le titre était rigolo. Psycho Circus The Nightmare Child, c'est génial. Alors là, dans un rôle beaucoup plus classique, pas du tout à contre-emploi, il s'agit de Mike Tyson, qui a fait son apparition dans un, si ce n'est le plus mythique des jeux de boxe, Punch Out
évidemment.
Avec plein d'anecdotes là-dessus aussi, version qui a été supprimée, il était plus dedans, il était dedans, il a fait la pub, il y a eu des histoires de droits à ne plus savoir quoi
évidemment
faire.
Parce que en fait enfin de celui-là que je me souvienne, il a toujours été utilisé il me semble
au départ, c'était pas officiel
dans les Punch Out, et effectivement c'était pas officiel quoi. C'était sa représentation physique entre guillemets, on voyait que c'était lui. Mais il n'était jamais question à l'époque qui cède ses droits pour avoir cette image-là quoi.
Et alors il l'a fait au final puisqu'il a fait les pubs. Et puis après, je crois que ça a été repris encore. Enfin, ça a l'air de. Ouais. Là, j'ai pas.
Ah bah ils ont dû s'arranger au bout d'un moment. Ouais. Tyson a dû dire attendez, mais ça fait combien d'années que vous utilisez mon image là.
Ah, puis je crois qu'il y a eu l'histoire aussi du viol plus ou moins présumé. J'ai pas tout suivi, etc. Oui. Donc Nintendo l'a retiré. Enfin bon, il y a eu plein d'histoires diverses et variées.
C'est marrant parce que c'est pas la première fois qu'on utilise plus ou moins son nom dans Street Fighter 2.
Bah, dans Street Fighter, exactement.
C'est Mike Tyson. Concrètement, c'est pour ça que le nom a été changé.
Et son nom japonais, c'est Balrog.
Oui, c'est ça.
Le nom
c'est inversé.
Ouais, c'est Balrog. Ouais.
Ils ont changé les noms des boss.
Balrog, c'est l'espagnol dans la version japonaise.
Ah oui, non, c'est ça. Alors, voilà. C'est
Vega, c'est Vega. Le dictateur.
Oui.
Donc,
oui.
M. Bison, c'est bien le boxeur dans la version japonaise.
La version japonaise.
C'est chez nous, M. Bison est le dictateur.
C'est ça.
Et nous,
c'est Balrog.
Balrog, le boxeur. Ils ont inversé les noms.
Oui, c'est vrai.
Voilà. C'est très clair, vous avez tout compris.
Bonne réponse de Tiger.
Attention, on va se reprendre les copies à la fin, là, dans 2 minutes. Hein, donc,
non, mais c'est évidemment les noms japonais d'origine qu'il faut considérer. Mais.
Voilà. Et effectivement, très clairement,
bah ouais,
c'est
Bison, Mike Tyson.
Bah oui, puis même de gueule, c'est très très
bien. Ah oui, c'est le personnage, ouais, clairement.
On reste avec une grande vedette qui nous a quitté aussi dernièrement. Et là, il y a tout le pan droit du canapé qui est en train de décéder. Michael Jackson, présent. Il n'a jamais eu un jeu à proprement parler, hormis, bien sûr, l'adaptation Moonwalker. Mais justement, on n'en parlera pas parce que c'est une adaptation pure. On va parler plutôt de ses apparitions dans d'autres jeux.
On ne va pas parler de Moonwalker.
Ah bah non. Ah bah non.
Alors que c'est le meilleur jeu.
Ready to Rumble 2, Boxing 2,
évidemment.
Et Spell Channel 5, Part 2, deux apparitions de Michael Jackson.
Ouais, il faut dire que Michael Jackson était un grand fan de jeux vidéo, et de Sega en particulier. Mm-hmm.
Et c'est lui qui a voulu apparaître dans la deuxième version du jeu de boxe.
Ready to Rumble.
Parce qu'il avait adoré le premier, il arrêtait pas d'y jouer, etc. Machin, donc il a fait la demande et évidemment on pouvait pas lui refuser ça forcément.
Il a accepté de se prendre des pains et de se faire déformer la tronche.
Exactement.
Parce que. Dans Ready to Rumble, il y avait un truc génial, c'était la déformation des gueules en temps réel, et les bleus, génial, les cocards, etc. Et donc effectivement, Michael Jackson, tu pouvais lui démolir la tronche dans Ready to Rumble.
Tu peux lui refaire la tête.
Et du coup, il avait un visage normal après. Comme il était
moins blanc. Quoi.
Voilà.
Et un peu de la même manière, et donc, il a fait une apparition dans Space Channel 5 Part 2 sous le nom de Space Michael, où il venait aux côtés de Oulala pour sauver l'univers en dansant, etc. Et donc, il reprenait tous ses pas, etc. C'était assez rigolo.
Et il ne faut pas oublier qu'après Armand, ce serait lui aussi qui aurait composé l'un des thèmes de Sonic 3.
Oui. Sonic que.
Et d'ailleurs, sur Gameblog, vous pouvez le retrouver. Hein. Il y a vraiment le thème original qui a servi finalement quelques années plus tard à Stranger in Moscow. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Oui. Et on le colle sur le thème machin, on se rend bien compte que oui, c'est lui. Et ça a même été confirmé il y a quelques mois après sa mort par l'un de ses producteurs, je crois.
Bah par Sega, je crois, tout simplement.
Et par Sega aussi, ouais, je crois. Voilà. Il adorait Sega.
Effectivement, visiblement. Il y a Richard Bohringer aussi qui aurait pu participer à un jeu vidéo. Ça aurait été un jeu avec beaucoup de cinématiques, plein d'images de synthèse. C'était le moment où vraiment c'était le boom, l'explosion de la scène d'images de synthèse. Et là, ça devait être un jeu qui devait être 20 milieux sous les mers. Et rappelez-vous peut-être à l'époque, à l'Imagina, etc., il y avait eu les premières images.
Oui,
et on le voyait, il était le capitaine Nemo.
Ouais,
et donc son visage avait été complètement modélisé.
Oui.
Malheureusement, ça n'a jamais abouti.
Ça, je me souviens vaguement, tu avais fait un reportage là-dessus à l'époque dans PlayStation Magazine.
Peut-être sur les nouvelles images de synthèse.
Avec des artworks absolument sublimes.
Et ça n'a jamais vu le jour au final. Hein, mais il s'était prêté au jeu. Et bon. Voilà.
Ça n'a jamais été, juste pour finir là-dessus, ça n'a jamais été adapté justement ça dans des trucs de parcs d'attractions, des trucs comme ça. Peut-être au final, non. Si c'est pas sorti en jeu vidéo, peut-être que ça a été dans des présentations.
Apparemment, il devait avoir Jean Rochefort avec lui.
D'accord.
Il devait avoir Richard Bohringer et Jean Rochefort, mais j'ai regardé un peu ce matin.
Comme des narrateurs, etc., l'aventure, tout ça, quoi.
Ouais, ouais. Il devait avoir le capitaine Nemo et Ned Land ou un truc comme ça. Enfin. Je ne sais pas exactement qui aurait fait Quickie. Enfin, Richard Bohringer, c'était le capitaine Nemo.
Exact.
Alors, tout à l'heure, on parlait de Michael Jordan. Eh bien, là, parlons de l'autre star du basket international, Shaquille O'Neal, qui lui aussi a eu un jeu. Et un jeu, lui aussi, assez rigolo.
Chaque fou, un jeu de combat, mais qui était vraiment bien foutu. Oui. Ce qui le caractérisait, c'était surtout les animations des personnages. Je ne sais plus quelle technique ils avaient utilisée à l'époque, mais les persos étaient tout petits. Mais ils étaient ultra bien animés, quoi. Et ça, c'était vraiment très très impressionnant.
C'est que moi, j'ai vu Shaq Fu bien souvent dans le top 10 des pires jeux de l'humanité.
Bah, pourtant, donc, je t'assure qu'à l'époque,
c'était vraiment.
Techniquement, c'était impressionnant.
Techniquement, c'était impressionnant. Après, à jouer, je crois pas qu'on l'avait mis une bonne note à l'époque.
C'était un jeu de combat ultra basique, quoi.
Oui, c'est ça, c'était basique. Hein. T'as des coups genre balayette, machin, tout ça. Bah, évidemment, avec le personnage de Shaquille O'Neal.
C'était un Ringardos, quoi.
Mais pour l'époque, c'était vraiment bien foutu.
C'est-à-dire
hein,
que Shaquille O'Neal n'était pas du tout Ringardos en plus. À l'époque,
non.
Bah, Jordan,
surtout qu'à l'époque, déjà maintenant c'est quand même une grosse vedette, mais à l'époque c'était vraiment la star de la NBA, quoi.
Ouais, tout à fait.
Et donc je me souviens effectivement, petite anecdote, les gens d'Océan, c'était Océan qui l'éditait à l'époque chez nous. Ils étaient venus à une dizaine, je crois, pour présenter le jeu, tellement
c'était leur méga
gros
jeu,
gros truc. Ah ouais. Fallait pas stouper là-dessus.
Comment ils avaient payé la licence.
Oui, j'imagine, ouais. Il fallait pas stouper là-dessus, quoi. Donc effectivement, ils avaient sorti la grosse artillerie marketing pour le vendre, quoi, à toute la presse, etc. Donc dans mes souvenirs, en tout cas, c'était un titre qui était pas mal du tout, quoi. C'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était plutôt sympa. Et moi, ce qui me reste en tête, c'est vraiment les animations qui étaient super bien foutues, quoi, pour l'époque. Voilà.
Autre titre avec une star, cette fois-ci elle vient du Japon, on la connaît bien chez nous en France, il s'agit bien évidemment de Takeshi Kitano. Alors en japonais ça fait Takeshi no Shunsanjo,
Chosenjo.
Chosenjo.
Le défi Chosenjo. De Kitano.
Le défi de Kitano. Et alors, de quoi s'agit-il, Julo ?
Alors, d'abord, rappelons que Takeshi Kitano est connu chez nous en tant que cinéaste de talent, pris très au sérieux, etc. Mais il faut savoir qu'au Japon, c'est une sorte de l'agaffe locale. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un mec qui fait le pitre à la télé depuis très longtemps. Il a commencé par faire des claquettes, puis du stand-up, etc. Et c'est un pitre, un vrai pitre. Et on lui donne notamment peut-être ces émissions que vous voyez sur les chaînes de la TNT ou du câble, dans lesquelles on voit des Japonais sauter sur des trucs qui tournent. Voilà, c'est Takeshi's Castle. Donc ça, c'est lui.
C'est
donc,
balaisant,
il est surtout connu pour ça au Japon, c'est un vrai pitre. Et à l'époque, il était très 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 populaire. Et donc, c'était en 86, et donc il a eu son jeu. C'était sur Famicom, donc sur NES. Et c'était un jeu complètement absurde, en fait.
Comme
et,
lui.
Absurde au possible, le but fixé par Kitano étant de faire le jeu le plus pénible de l'histoire des jeux vidéo.
C'est ce qu'il a dit,
le jeu le plus dur et le jeu le plus chiant. C'était une sorte de haine du jeu vidéo, je sais pas, ou de. J'ai une déclaration assez intéressante de Kitano que je vais vous lire, qui était.
J'ai fait le pire jeu de tous les temps.
J'ai créé un jeu vidéo il y a des années de cela. C'est le pire de toute l'histoire du jeu vidéo. Un jeu terrible. Les parents qui l'ont acheté en croyant faire plaisir à leur bambin l'ont vite regretté. Devant leur console, les enfants étaient terrorisés. Ils ne bougeaient plus. Ils étaient totalement abrutis par ce jeu débile. Des mères ont appelé le fabricant. Leur enfant pleurait. Tant mieux, non ? Au Japon, les enfants sont trop gâtés, un peu de torture ne leur fait pas mal. Donc ça, je trouve, c'est assez rigolo. Donc ça, c'est le concept du jeu, en fait. Et donc, d'accord, pour illustrer un peu
torturer
la situation,
les enfants,
il fallait, par exemple, il y a des moments dans le jeu où il fallait faire des trucs vraiment débiles et très chiants. Par exemple, rester une heure appuyé sur tout le bouton fait, select, ou alors chanter. Il y avait un micro sur Famicom, chanter pendant une heure sans s'arrêter. Et si jamais t'arrivais au boss final, ce qui était déjà une torture en soi,
à mon avis,
et pour battre le boss final, il fallait le toucher 20 000 fois.
Et personne n'a dû faire.
Et donc, quoi, c'est un jeu qui est devenu culte, en fait. Ouais. Il a réussi son coup, mine de rien, parce que voilà, c'est un jeu.
Ah, c'est hors norme.
C'est priceless, quoi.
Ouais, c'est hors norme.
Voilà.
Mais je vous invite à aller sur YouTube. Il y avait nos amis de Pix & Love qui nous avaient filé le lien. Cherchez, je sais plus comment s'appelle cette émission japonaise.
Game Center.
Game Center 6.
Ah, bah voilà, c'est ça. Où alors ils testent les jeux à fond, etc. Et donc, ils ont testé celui-là.
Il y a des défis, voilà. Et le défi, et c'était finir ce jeu.
Extraordinaire. Vraiment, ça doit durer, je sais pas, 45 minutes et tout. Il y a des moments où ils accélèrent le temps, machin. Mais...
Parce que tout est absurde. C'est-à-dire que les mécaniques du jeu, c'est absurde.
Il devient fou.
Si tu considères que déjà les Monkey Island, des fois, tu dois faire des trucs, c'est complètement barré. Mais là,
à mon avis, j'imagine que
c'est au-delà de tout, quoi.
Donc, si vous voulez avoir une petite idée vraiment des différents. Parce qu'il le finit au final.
Oui, oui, il le termine.
Et la fin, elle est catastrophique.
Non, mais c'est n'importe quoi.
Il est vraiment 20 000 fois à la fin. Putain.
Game Center 6, il y a peut-être encore
exactement.
Des extras.
Exactement. Et donc le jeu en lui-même, c'est Takeshi no Chosenjo, le défi de Kitano. On passe à un autre titre, un petit peu moins rigolo, hein, forcément beaucoup plus classique, mais où on retrouve Sam Witwer. C'est Star Wars The Force Unleashed.
Oui, oui, effectivement, il incarne le héros du jeu, hein, qui est l'apprenti caché de Darth Vader.
Il a pas beaucoup de charisme, hein, quand même. Il est comme ça dans la vraie vie.
Ah, c'est exactement sa gueule, oui. Ça c'est vraiment.
C'est désolé,
c'est tout à fait lui. Donc là, c'est un petit peu le même principe qu'Elle est noire, hein, c'est-à-dire que c'est un acteur qu'on a vu notamment dans Battlestar Galactica aussi. Mm-hmm. C'est marrant d'ailleurs parce qu'en fait. Ils doivent être moins chers, les acteurs de série. Je sais pas, doit y avoir un truc,
oui,
mais il y a quand même beaucoup plus d'acteurs de série qui ont incarné des personnages dans le jeu vidéo ou prêté leur voix ou leur visage que des acteurs de cinéma ou de vraies grosses célébrités, à part peut-être Samuel L. Jackson, mais enfin, en même temps, lui, il fait tout et n'importe quoi. Hein. Mais donc, effectivement, notre ami Sam incarne ce personnage emblématique de Force Unleashed. Mm-hmm. Et je crois que c'est à peu près la seule chose qu'il ait faite dans le jeu vidéo.
Très bien. Eh bien, on le remercie. Snoop Dogg. Ah, Snoop Dogg. Eh bien, on le retrouve dans True Crime Streets of LA.
Tu le crois, ça ?
Effectivement, il était.
C'est un personnage débloquable. Oui, il fallait le débloquer, je crois. C'est-à-dire qu'il n'était pas de base dans le jeu, mais tu pouvais le débloquer et le jouer. Et c'est vraiment lui, quoi. Ça, c'est Snoop Dogg, quoi. Donc, voilà. Dans True Crime, il y a d'autres apparitions aussi au fur et à mesure de la série.
Tout ça.
Entre True Crime et. Streets of LA et True Crime New York, il y a plusieurs autres célébrités qui rentrent dans cette série.
Ils ont fait West Coast, East Coast.
En tout cas,
on verra pas le prochain.
Voilà, c'est ça. Le prochain qui a été annulé dernièrement.
Dernièrement et au dernier moment.
C'est un peu l'idée. Voilà.
Exact.
Allez, on va finir cette liste justement avec les célébrités dans le jeu vidéo. Et tout à l'heure, et pourtant on en a déjà parlé beaucoup, mais c'est le premier à la fois. Et le dernier, l'alpha et l'oméga, puisqu'on arrive à la lettre W avec Wing Commander. Et forcément,
Marc Hamill.
le
Luke Skywalker.
Exactement, Luke Skywalker. Alors, ça a été finalement le premier, hein,
ah bah lui,
ou en tout cas l'un des tout premiers.
Ah ouais, il a réussi à se recycler très ouais. vite. Dans...
Enfin, très tardivement.
Oui, très tardivement. Non, mais je veux dire par rapport aux autres célébrités, entre guillemets, quoi. C'était le premier.
Mais je crois qu'en fait, il n'avait pas trop le choix.
Oui, bah oui
je crois que ça n'allait pas très très bien.
C'est-à-dire qu'effectivement, quand on l'a vu arriver.
Il a
dans
vu la brèche, il a fait ouais. OK, j'y vais parce que.
Il lui fallait du taf.
De côté, c'est bouché et voilà quoi.
Bah ouais, c'est un acteur qui est connu uniquement, enfin plus trop aujourd'hui, mais enfin en tous les cas, à l'époque, il n'y avait que Star Wars, Luke Skywalker et basta.
C'est comme la princesse Leia, hein, elle a joué dans quoi d'autre, tu sais?
Ah non, Carrie Fisher, elle a joué dans plein d'autres trucs, des comédies romantiques, etc. Non, j'ai pas oublié parce que je suis pas un amateur de comédies romantiques, mais elle a fait beaucoup d'autres rôles après.
Mais personne ne sait ça. Et lui, à mon avis, c'est pareil. Il a eu le syndrome Star Wars et voilà, il s'est poursuivi toute sa vie.
Et Carrie Fisher est devenue obèse et écrit des bouquins aussi.
Ah bon,
elle écrit beaucoup
bah
de bouquins. Elle est devenue très grosse. Ah, elle est devenue super grosse. Comme Loana.
Ah, bon, mais je
dernièrement, Loana, je pense qu'elle a pris 2000 kilos.
Chewbacca, on l'a jamais plus revu non plus.
Chewbacca, il est disparu.
Effectivement, ouais. Et donc effectivement au moment où il s'est pointé alors ça allait bien parce que c'est du space opéra, donc il y a des vaisseaux spatiaux, il y a des trucs, ça ressemble un peu à Star Wars et forcément
quand on joue d'acteur
c'était amusant de voir Mark Hamill débarquer là-dedans. Mais bon, après par la suite il a une carrière qui est relancée.
Oui, oui. Et bah justement on va en parler puisque nous abordons la
feuille numéro 2,
les doublages. Oui. Et effectivement, bon, on peut commencer par lui, hein. Mark Hamill est très actif sur la scène du doublage.
Ouais,
il est vraiment super bien.
Ouais, il est vraiment super bon.
On cite le plus récent et le plus connu, c'est le Joker à la fois dans le comics, enfin
dans
la
dessin animé,
mais aussi donc forcément dans Batman Arkham Asylum et dans Arkham City à venir.
Oui, effectivement. Alors, il interprète un Joker absolument. Enfin, moi, je le trouve vraiment génial.
Ah, ouais, vraiment, ouais.
Et c'est un vrai travail de voix, quoi. C'est-à-dire que c'est pas le cas forcément de tous les doubleurs dont on va parler maintenant qui prêtent juste leur propre voix, mais lui assume vraiment un phrasé, un timbre de voix et tout ça très particulier pour incarner ce personnage. Et il a fait à peu près le même travail avec un autre personnage secondaire dans Darksiders qui joue le Watcher, qui est qui accompagne le héros
le regardeur
dans Darksiders Wrath of War.
Et là encore très 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 bon.
Of the Lich King.
Peut-être en entraînement. et ça me fait rire. Alors c'est une anecdote quand même. Parce que je sais pas si vous avez vu la vidéo où Koei se fout de la gueule des.
Oui, et le mec a fait. Oui, j'ai vu.
Il y a un mec qui
arrive.
Il
n'y arrive pas.
Oui, alors Wrath. Bah, c'est pas si facile que ça. Spontanément, quand on est en train de parler, de dire Wrath of Lich King. Alors on va le retrouver, Mark Hamill, aussi dans le jeu Captain America Super Soldier.
Oui.
Puisqu'il incarnera Red Skull.
Ouais, le
crâne rouge.
Héros emblématique.
L'anti-héros
d'ailleurs. C'est pas le héros, c'est le vilain.
C'est le Némésis,
ouais, l'anti-héros. Le
Captain America.
La Némésis.
Qu'en sais-je.
En tout cas, Mark Hamill n'arrête pas non plus, puisqu'il jouera, il incarnera la voix du méchant dans Legend of Spyro. Alors, totalement un autre univers. Ouais.
Ah, oui.
il joue aussi Majima dans Ryoga Gotoku.
Oui,
Yakuza.
Yakuza.
C'est le narrateur aussi de Call of Duty 2. Mm.
Pas Modern Warfare 2, hein, Call of Duty 2.
Exactement.
Il a repris ce même rôle aussi dans le spin-off qui est sorti sur console après. Parce que Call of Duty 2 était sorti sur PC. Il s'appelle Opération Red, je sais plus quoi.
Il joue Pyro dans Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. Putain, ce qui est bien maintenant, c'est que moi, il y en a partout.
C'est fait exprès,
donc,
en fait.
C'est ça. Et donc, quand même, il a 29 apparitions dans des jeux vidéo. Mark Hamill, c'est
si on s'en réfère, effectivement.
C'est du record
IMDb, ouais.
C'est carrément le record, mais il est talonné de près par quelqu'un d'autre. Lui aussi est très connu, hein, vrai star de cinéma avec une gueule assez improbable, vraiment très particulière. Mais
Ron Perlman.
Exactement. Ron Perlman, au nom de La Rose, Cité des Enfants Perdus, Alien 4, Hellboy, ouais. Ou encore récemment la série Sons of Anarchy. Donc lui,
c'est une super série, ça d'ailleurs. Je vous la recommande.
C'est nul.
Lui, c'est le narrateur dans la série des Fallout.
Bah oui, c'est lui qui fait. En fait, tous les opus de Fallout s'ouvrent sur un monologue qui dit la guerre, toujours la guerre, machin, etc.
La guerre, c'est mal.
Et c'est lui qui fait ce monologue. Alors c'est pas très long, hein, mais voilà, il est célèbre pour ça.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Peut-être.
C'est cool, hop, il est aussi dans Hawks 2. Bon, ouais. C'est un peu plus. Hein,
c'est anecdotique.
Dans Afro Samouraï.
Ouais, il a une voix quand même, Perlman, qui est aussi très caractéristique.
Génial, ouais. Carrément. Dans les jeux Hellboy, bon là, c'est un peu plus naturel.
Je pense qu'il a signé pour. Hein.
Alors ça, je ne savais pas, mais Lord Hood dans Halo 2 et 3, c'est qui Lord Hood
Je serais incapable de te le dire.
Très bien.
C'est, je crois, un des prophètes, il me
oui,
semble.
Oui, c'est ça.
Robin des Bois,
c'est un tout petit rôle, alors.
Oui, oui, oui. Mais il en a fait plein. Hein. Mm. Il a plus de 20 aussi, je crois.
Oui, c'est ça. Bah, non, il est deuxième parce que Marc-Amil, c'est 29 apparitions. Lui, c'est 27.
27.
Et ouais. Parce qu'il a joué aussi, alors là, des petits rôles, mais dans The Outfit, Turok,
oui.
True Crime,
oui, oui.
Les Chroniques de Riddick,
Turok, ouais.
Ouais. Forgotten Realms, Icewind Dale.
Oui, qui était. Alors, oui, c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que donc lui, en ce moment, ça se fait de plus en plus pour les acteurs de séries et de cinéma de participer, de prêter leur voix et leur visage aux jeux vidéo. Mais quand Ron Perlman a commencé, c'était pas trop le cas. C'était le jeu vidéo, c'était encore un truc assez marginal. Mmh. Le premier Fallout, c'est mi-90, etc. Bah, et Icewind Dale, c'est pareil, c'était l'époque Black Isle. Oui, oui, là, c'était des enfants perdus aussi. Oui. Mmh. Donc il fait partie en fait de ces acteurs et de ces grands noms qui ont commencé à travailler dans le jeu vidéo très sérieusement il y a déjà longtemps.
Il y a assez tôt. Ouais.
J'étais amoureux de la petite brune de.
Ça, c'était des enfants perdus. Ah, le jeu était pas mal. Hein.
Quel super film. Et le jeu était vraiment sympa aussi.
Sorti de cet aparté. Le troisième, qui a le plus œuvré en termes de doublage et d'apparition, en termes de crédit dans le jeu vidéo, c'est Patrick Stewart.
Oui.
Donc, le capitaine Picard de Star Trek, le
professeur Xavier.
Exactement.
Alors, ça, c'est normal aussi, c'est parce qu'il y a eu plein de jeux X-Men et plein de jeux Star Trek dans lesquels il reprend le rôle de Picard, évidemment.
Forcément. Mais on le retrouve aussi dans Elder Scrolls 4 Oblivion. Ouais. Et c'est l'empereur Septime.
Il fait d'autres voix aussi, souvent dans des jeux soit de fantasy, soit de science-fiction. Donc une affection particulière pour ce genre de personnage-là.
Et là, on va passer rapidement sur d'autres personnalités, certaines plus connues que d'autres, mais qui ont fait des petites apparitions en termes de doublage dans le jeu vidéo. Alors par exemple, on retiendra Liam Neeson, forcément, qui a doublé dans Fallout 3 aussi.
Ouais, il joue le père du héros, en fait, tout au début du jeu. Mm-hmm.
Et qui a repris son rôle dans Batman Begins. Forcément, Dick Serkis, on l'a dit tout à l'heure, mais il a doublé les jeux Ninja Theory. On le retrouve aussi forcément dans le King Kong, où il jouait lui-même le primate et les bruitages et les machins.
Les
c'est lui. Kiefer Sutherland, donc Jack Bauer, forcément, il s'est doublé dans l'adaptation de 24. Mais on l'a aussi retrouvé dans le jeu vidéo Call of Duty World at War, où c'est lui qui incarnait l'un des, caporal, commandant, en tout cas un des mecs du front. Christopher Walken, qu'on retrouvait aussi dans True Crime Street of LA et True Crime New York City, et dans The Privateer 2.
Ça, c'est vieux, ça, comme jeu, ça.
Privateer 2.
Privateer.
Et puis on va conclure avec Mac Payton, qui est quand même
Mike Patton,
qui est le chanteur de Face No More et de Mr. Bungle.
Ouais. Mr. Bungle, c'est extraordinaire. T'as jamais écouté ça?
Non,
c'est nul.
Oui, qui a doublé le Jack Estecado dans The Darkness. Ouais. Il a fait
un infecté dans Left 4 Dead 2. Et Nathan Spencer
dans
Bionic Commando.
C'est quoi ce rôle?
Ouais. C'est le héros dans Bionic, dans le remake.
Et alors, je vois aussi qu'apparemment, il a fait une voix dans Portal, la Hunger Sphere.
Oui, alors je peux pas trop raconter ce que c'est que ça parce que sinon ça va spoiler Portal en fait.
Alors mais, ne spoil pas.
Il y a différentes voix dans le jeu, robotique, etc. Et il en a fait une, voilà.
D'accord. Eh bien, écoutez, nous allons pouvoir bientôt conclure ce podcast, mais avant ça, on va parler de la partie
française. Attends, on n'a pas oublié
française.
Un petit doubleur important là.
Il
y a Denis Hopper quand même, ouais.
Ah, j'ai pas dit.
Eh oui, Denis Hopper qui a joué donc dans Easy Rider, Waterworld, etc. Ouais. L'acteur.
Waterworld.
Acteur des extrêmes quand même.
Oui, ouais.
Ah ouais, parce qu'entre Blue Velvet
il a joué dans Mario Bros. Ouais, c'est ça, il a joué dans Mario Bros quand même.
Bah, c'est un chef-d'œuvre, Mario Bros.
Bah,
par rapport à Blue Velvet.
mais qu'est-ce qu'il avait fait lui déjà? Oui, il prêtait sa voix aussi à Steve Scott dans GTA Vice City.
Vice City.
Et il a joué aussi dans Deadly Creatures, qui est un jeu mineur.
C'est le truc avec les araignées.
Ouais.
Bah, il fait des voix de.
Non, mais il doit y avoir des voix de narration, etc. Ouais. Je t'avoue que je n'y ai pas trop joué beaucoup des masses, mais bon voilà quoi.
Je me demande qui a doublé le poisson dans le fameux jeu bizarre là.
Il y a un autre truc qu'on a oublié.
Ouais, le jeu de Candy là.
Ouais, avec le poisson. Ah. C'est qu'il a doublé ce mec.
Bah, c'est Candy, non?
Simon.
Non, qui a doublé le poisson.
Attends, mais si, il y en a un autre. On a parlé tout à l'heure de Michael Ironside qui jouait dans Wing Commander, mais il fait la voix originale de Sam Fisher dans les versions US aussi.
Ah ouais.
Voilà, acteur assez connu aussi.
Roger Hanna, l'acteur.
Je crois que c'est à peu près tout là.
C'est à peu près tout. Et pour conclure, on va parler aussi des voix françaises
qui doublent même des célébrités et qui donc en sont des voix célèbres.
Et puis c'est des voix qu'on entend tout le temps et on sait toujours ah mais ça me dit quelque chose, je sais.
Columbo,
et vous allez voir que par exemple Patrick Poivet, la célèbre voix de Bruce Willis, lui il est très actif aussi dans le monde du jeu vidéo.
Il a une pure voix, c'est clair.
Serious Sam, The Dig, Unreal Tournament, Outcast, où il jouait carrément le héros, hein, Cutter Slade. Et là, c'est plus rigolo. Kingdom Hearts 2.
Ah oui, ça change joue, des trucs bien bourrins.
Les personnages de Tron.
Ah bah oui, oui.
Voilà.
Tout à fait.
Et puis aussi, dans d'autres adaptations, où là, clairement, bah, il joue les rôles qu'il a l'habitude, hein, Bruce Willis, donc c'est Jack McClane, donc c'est Die Hard Vendetta, le jeu, ou encore le personnage de John Abruzzi dans Prison Break, The Scomp...
Eh oui.
De,
con...
de Conspiracy.
Conspiracy. Qui est un vrai chef-d'œuvre.
Donc voilà, Patrick Poivet, donc très actif au niveau du jeu vidéo. Autre voix très célèbre, puisqu'il s'agit de la voix de Morgan Freeman et aussi de la voix antenne de Fun Radio dans les années 90, Benoît Allemann. Il est très très présent, et ça, Raon le connaît bien forcément, l'a rencontré plusieurs fois, puisqu'il double le personnage de Kane dans la série des Legacy of Kane et des Soul River. C'est lui aussi qui a doublé Manfred dans Heavy Rain, vous savez, l'horloger dans lequel. Et il va se passer deux trois petits trucs.
Tournant majeur dans l'histoire d'ailleurs.
Hein?
Tournant majeur de Heavy Rain.
Un moment important. Ouais. Un moment où à mon avis d'ailleurs il y a une petite incohérence. Bon.
Il y a une erreur dans les flashbacks ou pas? dans la chaîne des flashbacks.
Il a doublé aussi dans Stalker, dans Fable, dans Dragon Age, dans Splinter Cell, dans Mass Effect, dans Alan Wake, dans The Witcher, dans Diablo 2.
Eh ben,
en gros, il a participé à plus de 45 jeux.
Ah oui, c'est le plus gros doubleur ever.
En France, enfin, en tout cas, clairement, Benoît Allemann, voix très célèbre. Et puis, on va conclure avec la voix de Schwarzy, Arnold Schwarzenegger. Il s'agit donc du français Daniel Beretta.
Le bien nommé.
Ouais, franchement, c'est ça. Sérieux. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est...
Je trouve que c'est plutôt bien joué, effectivement. Donc, il est super connu, forcément. Et lui, eh ben, c'est lui. Alors, autant c'est Michael Ironside qui fait la voix de Sam...
Fisher, dans la version US, voilà. Lui, c'est la version,
Lui, c'est la version française.
Attends, je crois que tu as dit Stallone, non? À la place de Schwarzy.
Non,
il y a des
C'est dans ta tête.
Daniel Beretta et Sam Fisher de Splinter Cell en français, bien sûr.
Exact.
Il double également Duke Nukem.
Oui, dans deux épisodes où il a une voix française, c'est les épisodes PS1, c'est Time to Kill et Land of the Babes.
Time to Kill.
Ouais,
c'est ça.
Et il double aussi dans Stalker, Shadow of Chernobyl. Il reprend sa voix de L'étrange Noël de Monsieur Jack, de La Belle et la Bête dans Kingdom Hearts.
Ah oui, il doit faire le grand méchant de L'étrange Noël de Monsieur Jack, je pense.
Dans Ken and Lynch, dans Tomb Raider, L'Ange des Ténèbres, dans Painkiller, dans The Saboteur, en gros. Voilà, ça,
il
en fait quand même.
Il y en a évidemment d'autres. Hein, mais
ouais, je demande dans le jeu d'Eric si ça va être les vrais doubleurs français.
ça serait bien.
Ça serait génial.
Ils sont morts, non?
Hein?
Ils sont morts.
Les doubleurs. ils sont morts de honte ou je sais pas.
Ils sont morts d'épuisement.
Exact. Est-ce que Trace, tu veux poser ta question subsidiaire qui te brûle les lèvres?
Moi, je suis en train de me dire, vu que Justin Bieber est archi connu mondialement, qu'il a fait le plus grand nombre de hits sur ses vidéos, je crois 500 millions quasiment.
500 millions, ouais.
Ever, machin. Mais pourquoi ils lui font pas un jeu vidéo à ce mec-là?
À mon avis, t'inquiète, ça va arriver.
Il va y avoir un jeu à licence, hein, comme il y a les Anna Montana. Mais
c'est évident qu'il faut lui faire un jeu, quoi, tout de suite. Enfin, tout je sais pas.
Toi, t'as envie de le tester, toi.
Mais non, mais il est sur le cartonné à un niveau surréaliste, quoi. Pas surtout aux États-Unis, je pense.
Eh bien, tu le testeras, je pense.
Voilà, je testerai.
Tu pourras lui défoncer la gueule.
Et si tu pouvais le tester chez toi, ce serait cool.
On fera un
plutôt qu'à la rédac.
Exact. Tu te fais ça.
Ah, Julo.
Ah, Julo, il a navigué sur Seaman.
Ouais, non, parce que tu te posais la question, je viens de vérifier. Donc, effectivement, il s'appelle Jeff Kramer, le mec qui a doublé Seaman, le petit poisson Zarbi cher à Candy. Mais il a aussi doublé un autre personnage, bon, pas très connu, mais qui me tient à cœur personnellement. C'est le héros de Deadly Premonition, Francis York Morgan. Donc, c'est le même acteur qui a fait Seaman. Voilà.
Très bien.
Wow, comme quoi, c'est bien, on reste bizarre.
Et c'est un acteur qui fait beaucoup de séries télé, trucs comme ça aux États-Unis. Voilà. Très bien. Jeff Kramer.
Et bien voilà, ainsi va s'achever ce podcast célébrité dans le jeu vidéo. Mine de rien, c'était amusant de se rendre compte à quel point finalement les vedettes, puisque là vous comprenez bien, hein, on n'a pas fait toutes les adaptations.
Oh non, il y en a plein.
Sinon, Daniel Radcliffe dans les Harry Potter.
Et puis même au niveau
Daniel
des voix.
Daniel Craig dans les James Bond. Et
au
compagnie.
Niveau des voix aussi, il y en a plein qu'on n'a pas mentionné. Mais genre dans Mass Effect par exemple, il y a plein d'acteurs aussi connus qui ont doublé, notamment Seth Green par exemple.
C'était Emma de Cône, mais sans être vraiment elle.
Oui, ouais. Tu soulèves effectivement la voix française de Jade dans Beyond Good and Evil, c'est Emma de Cône.
Je pense que contractuellement, les acteurs, quand ils font des films qui sortent en jeu, j'ai l'impression.
De plus en plus,
je suis quasiment
obligés,
sûr
ouais.
qu'ils signent pour tout ce qui sort après. Quoi.
Toute adaptation.
C'est évident. Donc, à mon avis, ils sont obligés de faire les voix derrière.
Ouais, mais alors.
Sauf exception.
Mais ouais. Mais par exemple, dans le cas d'un Mass Effect, c'est des vraies prestations. Extérieur à tout autre truc puisque c'est un univers de jeux vidéo.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Et donc, Seth Green faisait le pilote, je crois.
Ah oui, c'est possible. En plus, même physiquement, il lui ressemble un peu.
Un petit peu,
ouais. Avec sa casquette. Là, ouais.
C'est pour ça qu'il faut laisser le choix aux joueurs d'avoir les voix
tout
VO
à fait.
Et français, et pas toujours et l'un ou l'autre.
Mais c'est malheureusement techniquement pas toujours possible. Pour des questions de place, quand il y a beaucoup de dialogue audio, ça prend de la place.
Avec
sur
les Blu-ray et tout ça.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, les petits jeux, les jeux Rockstar.
Sur 360, t'en as pas. Hein.
Et oui,
effectivement, ils sont tous en VO, mais là, pour le coup, c'est quand même mieux. Quoi. Donc,
VO sous-titré.
Voilà, exactement.
C'est mieux, mais parfois, c'est pas très pratique. Parce que quand t'es en pleine.
C'est vrai que les agents
en bagnole,
des fois, avec GTA.
Bagnole à fond, avec le petit sous-titre en dessous, si tu parles pas du tout en anglais, waouh,
t'es dingue, ça.
Faut aviser. Ouais. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur les célébrités dans le jeu vidéo. Ainsi s'achève ce 180e podcast de la rédaction de Gameblog. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau rendez-vous avec vous dans les forums. Hein, si vous, il y a des vedettes, des stars que vous avez appréciées, qu'on aurait peut-être oubliées, parce que comme on vous le dit, c'est pas exhaustif, ça ne pourrait l'être. Eh bien, n'hésitez pas et ressortez les vieilles jaquettes des vieux jeux. Ça rappelle forcément de bons vieux souvenirs ou des très très mauvais parfois. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout jouez bien. Ciao.
Ciao. Ciao. Salut. Salut.